Michael Ponge pour un nouveau journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael.
Bonjour Marion, 9h10 à Port-au-Prince et à Washington. Une mission américaine dépêchée en Haïti, elle arrivera la semaine prochaine. Washington tente de désamorcer la crise des migrants haïtiens, après aussi la démission fracassante de son émissaire dans le pays. Il y a 5 ans, presque jour pour jour, le gouvernement colombien et les FARC mettaient fin à des décennies de guerre. Quel bilan pour les accords de paix, on va le voir. Et puis, dans une quinzaine de minutes, le journal de la première, Serge Massot. On sera à nouveau en Guyane, où la tension est toujours très vive autour de la question de l'obligation vaccinale pour les soignants.
Oui, la grève se poursuit à l'hôpital de Kourou et à Saint-Laurent, un homme armé d'un sabre a menacé un agent du centre de vaccination.
On en parle ensemble tout à l'heure, Serge. Bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Depuis dimanche, il est incessant, le balai des avions sur les tarmacs des aéroports de Port-au-Prince et cap-haïtiens ramenant du Texas d'où ils ont été expulsés. Des centaines de migrants haïtiens qui s'étaient massés à Del Rio. 1364 personnes, très exactement, ramenées en Haïti entre dimanche et mercredi, selon l'Office national haïtien de la migration, parmi lesquels 404 enfants. Situation qui fait bondir aux États-Unis l'élu démocrate de la Chambre des représentants, Ayanna Pressley.
Des enfants de moins de 3 ans faisaient partie de ces vols. Ces familles qui fuient une crise humanitaire, espérant trouver mieux aux États-Unis, ont été parquées comme du bétail, fouettées, menottées et détenues. Renvoyées dans un pays où beaucoup n'ont plus rien, c'est odieux. Nous pouvons et nous devons faire mieux. L'administration Biden doit faire cesser les expulsions et autoriser ces gens à suivre une procédure de demande d'asile, qui d'ailleurs est un droit humain légal. Les vies haïtiennes sont des vies noires et si nous croyons vraiment que les vies noires comptent, alors nous devons inverser la tendance. That black lives matter, then
we must reverse course. Mais pour l'heure, les autorités américaines continuent de vider le camp de Del Rio. Selon les derniers chiffres de la presse aux États-Unis, ce sont quelques 2000 Haïtiens qui ont ainsi été renvoyés en Haïti. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Des migrants qui ont subi des mauvais traitements, comme le disait à l'instant cet élu. Ce que confirme aussi l'Office national des migrations, qui déplore également le manque de moyens à sa disposition.
Oui, c'est ce qu'explique le coordonnateur de l'ONM dans Alter Press. Selon lui, les migrants déportés à Port-au-Prince auraient dénoncé des mauvais traitements à bord des avions. D'après certains témoignages, ils auraient été menottés comme des criminels durant leur voyage. L'ONM, qui dit avoir renforcé sa structure de suivi pour accueillir ces migrants, déplore n'avoir reçu aucune aide de l'État haïtien. À l'heure actuelle, c'est d'ailleurs l'Office international pour les migrations qui verse une aide dont le montant s'élève à 10 000 gourdes par migrant, soit un peu plus de 85 euros. L'ONM lance donc un appel au pouvoir public pour qu'il débloque des fonds et aussi pour qu'il mette à disposition des bus pour transporter ces migrants qui seront encore plus nombreux à débarquer dans les jours à venir.
La situation qui ne manque pas non plus de mobiliser la diaspora haïtienne, comme par exemple hier à Miami, en Floride. David Thompson était sur place.
Depuis leur quartier de Little Haiti à Miami, conférence de presse d'une quinzaine d'élus choqués par les violences contre des migrants haïtiens à Del Rio, au Texas. Comme beaucoup, Frederica Wilson, élue à la Chambre des représentants, ancienne militante pour les droits civiques, a tout de suite pensé aux heures sombres de l'histoire américaine.
I am pissed from what I saw.
Ce que j'ai vu me rend furieuse. Des gardes frontières à cheval qui fouettent des haïtiens, des noirs. Ça rappelle l'esclavage.
Et les élus haïtiens de Floride de rappeler en cœur à Joe Biden ses promesses de campagne en matière d'immigration.
Joe Biden est venu ici à Little Haiti pour nous dire qu'il serait un ami pour notre communauté. Il est temps de le prouver.
Ce week-end, la communauté haïtienne de Floride appelle à nouveau à manifester contre le traitement des réfugiés haïtiens au Texas. David Thompson, Miami RFI.
Une communauté haïtienne sans doute surprise, elle aussi, par les mots employés par Daniel Foote dans sa lettre de démission. On en parlait ici même hier. L'envoyé spécial des États-Unis en Haïti n'a pas hésité à critiquer la gestion de ce dossier par Joe Biden, parlant d'une politique inhumaine. Romain, la presse haïtienne, comment voit-elle cette démission?
Eh bien, en témoignant avec autant d'acuité dans sa lettre de démission, Daniel Foote vient d'écrire l'une des pages les plus virulentes de la contre-histoire des rapports entre Haïti Haïti et les États-Unis d'Amérique, estime ce matin le National dans son éditorial du jour. Un coup de pied de foot dans la fourmilière pour exprimer ce que nous savons tous. L'étranger impose insidieusement ses quatre volontés jusque dans les résultats des élections en Haïti.
Et pour le Nouvelliste, cette démission est un échec personnel pour Daniel Foote.
Oui, et surtout, cette démission souligne l'échec de toutes les politiques américaines en Haïti depuis des années. Depuis le séisme de 2010, pour ne pas remonter au déluge, les choix américains pour Haïti sont catastrophiques. Les choix d'Haïti pour lui-même ne le sont pas moins, estime le quotidien pour qui la crise des migrants date de 2010. Fourmis laborieuses, les Haïtiens sont de plus en plus nombreux en Amérique latine chaque année.
Et le quotidien s'interroge.
Comment les stratèges américains ont pu ne pas deviner que les fourmis allaient un jour venir frapper à leur porte, coincées qu'elles sont entre un pays natal où il est de plus en plus difficile de revenir et des pays d'accueil qui connaissent des revers économiques. Pour le Nouvelliste, les conséquences d'une telle stratégie sont évidentes. Affaiblir et laisser périr Haïti, c'est attirer ses fils, messieurs et dames de l'Amérique.
Et Washington, en tout cas, Romain, tente de désamorcer ce départ de Foote et annonce l'arrivée prochaine en Haïti d'une mission de haut niveau.
Oui, c'est ce qu'annonce le Nouvelliste de son édition du jour. Le but de cette mission sera, je cite, de déterminer la meilleure voie à suivre ici pour nous assurer de parler à la société civile, afin que nous entendions le peuple haïtien lui-même pour essayer de comprendre ce qu'il convient de faire, selon les déclarations de Wendy Sherman, secrétaire d'État adjointe des États-Unis.
Une mission programmée pour la semaine prochaine.
Oui, et qui sera dirigée par Brian Nichols, secrétaire adjoint aux affaires des Amériques, et Juan González, le directeur principal du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. À la question « Daniel Foote sera-t-il remplacé ?», Wendy Sherman botte en touche. Daniel Foote avait été nommé suite à l'assassinat de Jovenel Moïse. Aujourd'hui, les États-Unis peuvent s'appuyer sur leur ambassadrice en Haïti, explique la responsable, qui dit avoir une grande confiance en elle.
Et la politique américaine, elle, à l'égard d'Haïti, va-t-elle changer? Eh bien, il y a peu de chance, selon Robert Faton, professeur de politique à l'Université de Virginie. Écoutez.
L'autre côté de la lettre de M. Foote, c'est qu'il dit que les Américains, eh bien, ils choisissent comme ils le veulent qui sera président ou premier ministre en Haïti, comme si c'était des marionnettes. Et il dit que ça doit cesser parce que ça crée des problèmes de légitimité. Il faut donc changer cette vision de la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Et ça, c'est véritablement quelque chose de très important. Et il faut voir finalement si ça va changer. Mais je le doute parce que l'administration de M. Biden a tellement de problèmes à l'heure actuelle que essayer de rétablir un monsieur Foote, ça, je ne crois pas que ça va marcher.
Et le désormais ex-émissaire romain, lui en tout cas aurait plaidé pour l'envoi en Haïti de l'armée américaine.
Oui, c'est ce qu'aurait confié à Wendy Sherman d'après le Colorado Spring Gazette. Daniel Foote aurait réclamé ce déploiement de l'armée afin de sécuriser le pays. Une très mauvaise idée selon la secrétaire d'État adjointe des États-Unis. L'administration Biden a décidé de contre-attaquer après les critiques de Daniel Foote qui jugeait cette administration coupable de ne pas écouter et même d'ignorer ses recommandations. L'envoyé spécial Foote a eu amplement l'occasion de faire part de ses préoccupations concernant la migration. Il ne l'a jamais fait une seule fois, a expliqué hier la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. L'administration Biden tente de désamorcer la crise engendrée par la démission de Daniel Foote tout en tentant d'expliquer sa politique migratoire et les expulsions.
Une politique qui ne dissuade pas les milliers de migrants haïtiens encore présents au Mexique à vouloir passer aux États-Unis. Ils attendent dans des comptes fortune à la frontière. Gwendolina Duval.
Dans la ville d'Acuña, au nord du Mexique, à la frontière avec le Texas, ils sont plusieurs centaines de migrants haïtiens. Ils s'entassent dans un camp aux conditions extrêmement précaires et ne survivent que grâce à l'aide humanitaire. Ils attendent une ouverture et espèrent trouver le bon moment pour traverser le fleuve Rio Grande et rejoindre les États-Unis pour faire une demande de protection sans se faire expulser. Depuis plusieurs semaines, des milliers de migrants haïtiens s'accumulent dans les villes au Mexique. Au nord, à la frontière américaine, dans la capitale, Mexico, ou au sud, comme à Tapachula, près du Guatemala. C'est une population particulièrement vulnérable. En fuyant Haïti, les migrants ont tout quitté. La majorité d'entre eux a fait un voyage très dangereux de plusieurs milliers de kilomètres et traversé de nombreux pays, depuis le Brésil ou la Colombie. Les autorités mexicaines sont débordées par l'urgence de la situation et l'affluence record des migrants. Le pays procède lui aussi à des expulsions vers le sud quand presque 30 000 militaires mexicains se chargent de la surveillance des frontières. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Voilà, ce dossier des migrants haïtiens qui, on le comprend, hein, concerne une grande part du continent américain. Merci à vous, Romain Lemaresquier. On était au Mexique. En bref, cette information, le Mexique, où reprennent ce vendredi les discussions entre pouvoir et opposition vénézuélienne. Troisième cycle de négociations qui doit aborder le thème central du respect de l'état de droit. Dimanche, cela fera 5 ans que le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont signé de leur côté leur accord de paix. Accord qui tournait autour de 3 principaux points. La démobilisation de la guérilla, la question centrale du foncier et aussi la mise en place d'une justice de transition. Quel bilan, 5 ans plus tard? Le chercheur Jacobo Grajales vient de publier un livre, Agrarian Capitalism, War and Peace in Colombia. Sylvie Noël fait le point avec lui, à commencer par cette question de la justice transition.
Dès le départ, cette juridiction a fait l'objet d'attaques très frontales de la part de certains secteurs conservateurs de la politique colombienne. Et il s'agit des mêmes secteurs qui sont aujourd'hui au pouvoir, puisque c'est essentiellement le parti du président actuel, Iván Duque. Cette justice est accusée d'excès de mansuétude à l'égard des anciens commandants des FARC et d'être également une justice politisée selon ces secteurs-là. C'est regrettable parce que cette justice n'est pas seulement appelée à juger les crimes des FARC, mais également à juger des crimes d'autres acteurs du conflit armé, comme par exemple l'État lui-même, donc les forces armées. Actuellement, il y a un cas qui est fondamental pour ce processus de pacification de la société colombienne. Il s'agit de celui que l'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire de ces crimes qui ont consisté à assassiner des jeunes hommes, souvent des quartiers populaires ou des zones rurales, en les faisant passer pour des guérilleros, de façon à faire monter les chiffres des unités militaires déployées sur le terrain.
Quelle a été la position des FARC vis-à-vis de ce processus?
C'est vrai qu'il y a eu au début peut-être une certaine résistance de la part des commandants des FARC à accepter de se retrouver justement dans cette position de justiciable. En revanche, il y a eu des pas importants qui ont été franchis ces derniers mois, et notamment la reconnaissance par le leadership des FARC de la mise en place d'une politique depuis le sommet de l'organisation, d'enlèvement contre rançon, qui a été centralisée et qui a eu pour but de financer l'organisation rebelle, et l'acceptation de ce crime qui a très fortement marqué les Colombiennes et les Colombiens a été un pas important dans ce processus de justice transitionnelle.
Alors le deuxième volet, la démobilisation, le processus avait plutôt bien commencé en 2021, qu'en est-il?
Alors le processus avait effectivement permis de désarmer et de démobiliser environ 7000 personnes qui faisaient partie de la guérilla des FARC. Mais là où ça a coincé, comme très souvent en fait dans ces genres de processus-là, c'est sur le volet de la réinsertion. Les critiques sont très fortes à l'égard de l'État sur sa capacité à mettre en place de véritables programmes de réinsertion pour les guérilleros des FARC. Et c'est vrai que ça a beaucoup tardé à être mis en place. L'autre point noir qui est extrêmement inquiétant sur ce plan-là, c'est le meurtre d'anciens combattants. On en est à 286 personnes tuées depuis 2016. Ça témoigne de l'incapacité de l'État à protéger des personnes qui pourtant se sont engagées dans un processus de pacification.
Alors, quant au foncier, vous consacrez à cette question votre dernier livre, Agrarian Capitalism, War and Peace in Colombia. La redistribution des terres était au cœur de l'accord. 5 ans plus tard, le bilan est plutôt mince.
Le bilan est effectivement mince. Le déplacement forcé de population a été un trait central de la guerre colombienne. On calcule que sur les 30 dernières années, il y a eu environ 6 millions de personnes qui ont été déplacées internes. En tout cas, le déplacement forcé des paysannes et des paysans colombiens a alimenté un processus d'accaparement de terres dans certaines régions. La restitution des terres qui devait venir justement répondre à ce problème et réparer en quelque sorte les conséquences de la guerre et a démarré avec plein d'espoir et de promesses à partir de 2011 avec une loi révolutionnaire qui a été saluée par la communauté communauté internationale, soutenue par différents bailleurs de fonds internationaux. Mais cette procédure de restitution a ensuite été prise dans des lourdeurs bureaucratiques. Et puis, elle fait l'objet depuis 3 ans, donc depuis que le gouvernement actuel est au pouvoir, d'une volonté directe de miner sa capacité à véritablement mettre en cause les intérêts économiques qui sont derrière l'accaparement de terres, c'est-à-dire les intérêts de grands agro-industriels, les intérêts des classes possédantes rurales, y compris les intérêts de gens qui sont proches du pouvoir.
Et ce que vous pointez dans votre livre également, c'est qu'il est erroné finalement de croire que les vertus du marché libre, du libéralisme vont créer de la stabilité après une période de guerre.
Absolument. Aujourd'hui, l'État colombien se concentre sur la mise en place d'une législation foncière, par exemple, qui formalise les terres, qui formalise la propriété rurale. Le projet phare aujourd'hui en la matière est la modernisation d'un cadastre rural, très fortement soutenu par les bailleurs étrangers, par la Banque mondiale, par exemple, mais aussi par des bailleurs européens, dont la France. Et dans ce processus, il y a la croyance, tout simplement, qu'on va distribuer des titres de propriété aux gens, qu'on va peut-être les aider avec quelques soutiens techniques ou financiers, et que ça va régler le problème des campagnes colombiennes, qui était le problème de la guerre, qui était à la base de la violence. Enfin, à l'opposé de cette vision, la thèse que je défends dans l'ouvrage est que pour réellement pacifier ces campagnes colombiennes, il faudrait une intervention très forte qui rééquilibre le terrain à la faveur des populations paysannes et qui rompt le pouvoir extrêmement ferme que tiennent les élites rurales, qui empêche toute réelle transformation de la société dans ces régions de Colombie.
Jacob Bograrales, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, auteur donc du livre Agrarian Capitalism, War and Peace in Colombia aux éditions Routledge. Il répondait à Sylvie Noël. Et c'est la Guyane qui est à la une du journal de la première. Bonjour Serge Massot.
Bonjour.
La Guyane où arrive le ministre des Outre-mer dans un climat tendu.
Oui, Sébastien Lecornu doit faire le point sur la situation sanitaire, mais au centre hospitalier de Kourou, la grève contre l'obligation vaccinale des soignants se poursuit. Et à Saint-Laurent-du-Maroni, un agent du centre de vaccination a même été menacé par un homme armé d'un sabre. 21 morts liés au Covid-19 en une semaine en Guyane. Et la directrice de l'agence régionale de santé, Clara Debord, appelle au civisme et à la prudence.
Nous enregistrons un record de décès, un grand nombre aussi de personnes qui sont hospitalisées dans un état grave. Et puis, nous commençons à avoir quelques inquiétudes sur les enfants. On sait que les Covid graves chez les enfants sont plus rares que chez les adultes, mais ça peut arriver. Et quand nous commençons à avoir un virus qui est très contaminant, qui est très contagieux, forcément, on va avoir beaucoup d'enfants qui sont contaminés et une petite part d'entre eux qui pourraient avoir une forme grave. Donc vraiment, la situation là en ce moment, elle est devenue très très délicate d'un seul coup, et il faut absolument que tout le monde fasse très attention à se protéger. Sur l'île de Cayenne, on a à peu près 700 nouvelles personnes qui ont le Covid chaque semaine. Ça veut dire que dans votre vie quotidienne, vous en croisez forcément. Il faut absolument, absolument porter les masques. Il ne faut surtout pas retirer les masques et faire très, très attention dans vos activités quotidiennes, professionnelles, amicales, familiales.
Des propos recueillis par Guillaume Perrault. Et puis notez que le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, se refuse à appeler à la vaccination, je cite, au nom de la liberté de conscience. Il faut laisser le choix à chacun. Comme tous les 2 ans, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat révèle le bilan carbone de la Guadeloupe. Et les chiffres ne sont pas bons. 16 tonnes de CO2 émis par an et par habitant contre 11 tonnes dans l'Hexagone. Principale cause, les transports de personnes et l'importation de marchandises. C'est une première en 15 éditions. La Transat Jacques Vabre arrivera cette année en Martinique. 81 bateaux seront sur la ligne de départ. C'est un record. Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, s'apprête à vivre un rêve éveillé. Il l'a dit au micro d'Éric Saintas.
C'est un rêve qu'on avait. Quand ils sont venus me voir pour me proposer qu'on monte le dossier pour accueillir la Jacques Vabre, je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver ? Et ce sont effectivement les plus grands marins du monde, les plus beaux bateaux, les bateaux les plus rapides. C'est une course extraordinaire et qui, de surcroît, va avoir une arrivée assez rapprochée sur une dizaine de jours. Donc on aura vraiment la possibilité de voir tout le monde en même temps, tous les bateaux rassemblés dans la baie de Fort-de-France. Ça va être quelque chose d'extraordinaire et de magnifique.
Et puis on l'appelle désormais Sam. Cette dépression tropicale s'est renforcée pour se changer en ouragan avec des vents compris entre 120 et 177 km à l'heure. Sam devrait passer ouragan majeur dans les prochaines heures, mais il est encore trop tôt pour déterminer sa trajectoire précise. C'est ainsi que se termine ce journal. Bonne journée.
Merci beaucoup Serge Massot, à vous et aux équipes de la première. Bon week-end aussi, ainsi se termine cette semaine du rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Olivier Roux. Très bon week-end à tous en effet, et puis vous pouvez nous réécouter hein, d'ici lundi, vous le savez bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast et sur RFI Pure Radio. À lundi.